Salut à toi auditeur, salut à toi qui écoute Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, l'émission consacrée au 9e art avec un Roger au bout du rouleau.
Eh oui, qui hésite entre mourir et vomir, vous verrez bien.
Affaire à suivre dans cette émission, 466e émission. Consacré à quelques chroniques, quelques news et puis surtout une interview, une petite interview.
Monsieur Yomgui Dumont.
Ouais, 109 rue des Soupirs aux éditions Casterman. On l'a rencontré à Quai des Bulles pour cette bande dessinée humoristique, fantastique à destination de la jeunesse. C'était rapido le matin, il a bien voulu causer un petit peu avec nous. Petite interview.
Monsieur très gentil et dont j'avais chroniqué un ouvrage qui parlait d'une famille qui escroquait les gens aux fantômes.
Les pénouquets.
Et c'était un monsieur qui, depuis très très longtemps, verse dans un univers très Tim Burtonesque, je dirais.
C'est pas facile à dire ça.
Tim Burtonesque, ouais, surtout
bravo.
Avec 4 de tension.
Bravo, bravo. Interview musicale.
Ouais.
Allez, pour Sean McGowan, républicain irlandais, catholique, alcoolique et surtout poète qui nous a quittés. À la mémoire de Sean McGowan qui nous a quittés. Hier soir, on était à une petite sauterie organisée par la boutique dont on taira le nom, qui ont eu la gentillesse de nous inviter. Et puis
riche. Là,
il y avait du beau monde et ça bruissait, ça bruissait autour.
Surtout, c'était riche. Je veux dire par là, le buffet était garni. Et là, ça serait vraiment jouer les nains gras que de dire le contraire de mon triste état aujourd'hui.
Et ça bruissait autour d'une affaire qui concerne la mairie de Saint-Malo et le festival Quai des Bulles. Vous en avez entendu parler de ça, Roger ?
Et oui, c'est les éditions Bande Détournée s'étaient vues gratifiées d'une exposition dans le cadre du festival Quai des Bulles, dehors en fait. Pas une expo à l'intérieur du festival, mais dehors sur les murs, comme ils en ont déjà pris l'habitude depuis quelques années. Et c'est une bande dessinée de Monsieur Tiens-Tiens, qui est une BD qui s'intitule « Coco, il n'aime pas le capitalisme ». Moi, je trouve ça très drôle. Moi, Coco n'aime pas le capitalisme, c'est très drôle. Mais il y avait pas mal de dessins, un album qui s'est bien vendu pour une petite maison, 20 000 exemplaires, très beau score. quand même, pour un éditeur indépendant, un score mérité. Mais il se semblerait quand même que la police municipale se soit émue de certaines affiches et certains panneaux où on pouvait voir notamment le fameux ACAB, vous savez.
Un dessin voilà. Où c'était une chorale qui le chantait.
Voilà, et ça a déplu. Et donc Quai des Bulles, enfin après le président de Quai des Bulles, peut-être pas tout seul, enfin en décision, je ne sais pas comment c'est passé, ils ont décidé, en tout cas le festival a décidé de faire retirer entièrement cette expo. Et ironie du sort, si je ne dis pas de bêtises, tiens, donc encore une fois, je loue le talent parce que moi je suis un fan de son boulot. Je crois que il n'était pas contre une censure autour de, vous savez, le scandale Vivès il y a quelques mois déjà, bientôt un an.
Ouais.
Et moi j'ai toujours dit que censure un jour, censure toujours, et qu'on ne sait jamais.
Il y a la bonne censure et la mauvaise.
Voilà.
Censure.
Et on ne sait jamais de quel côté les ciseaux d'Anastasie vont couper. Aussi, je suis moi. Personnellement, que ce soit Bastien Vivès ou Tiens, un peu à la opposé, même totalement et définitivement opposé à la censure pour tout le monde.
Voilà. Alors, si on veut être précis, je crois qu'au départ, disons que certains groupes de pression qui n'avaient pas aimé ce message anti-police, relayé par un représentant du Rassemblement National.
Ouais, ils sont très actifs.
Ils avaient fait pression pour le retrait de certains des panneaux. Et c'est le festival qui a considéré que, du coup, ils retiraient tout. Hein, qu'ils allaient pas, c'était une forme de refus aussi de procéder à des coupes, quoi.
Tant pis. Oui.
On joue le tant pis. Mais je crois qu'il restait une dizaine de jours, donc là, c'était pas non plus.
Ouais, ils ont pu jouer la montre un petit peu, ça n'a pas été catastrophique.
Mais c'est intriguant, ça dit des choses sur le monde actuel.
Voilà, moi je dis, censure un jour, censure toujours, monsieur. Tiens, là, la censure, il faut jamais mettre. On ne dîne jamais avec le diable, même avec une grande cuillère, monsieur Culot, excusez-moi. Info libertaire, j'ai piqué ça sur Info libertaire. Oui. Vous ne lisez jamais, vous, Info Libertaire ?
J'avoue que non.
Eh bien, vous avez tort. Parce que, alors, j'ai recoupé l'info. Parce que, comme, effectivement, vous avez dit, vous avez piqué ça sur Info Libertaire. Non, j'ai repiqué.
Quelles sont vos sources ?
Prouvez-le. Prouvez-le. J'ai retrouvé, cette nouvelle-là dans un autre article, avec des propos peut-être un peu moins,
virulents.
Virulents. Mais il semblerait que le père Enki Bilal, qui, il y a 40 ans encore, dessinait les phalanges de l'ordre noir, une épopée d'anciens combattants des brigades internationales contre le retour du fascisme en Espagne, la croisière dans la croisière des oubliés racontait la résistance d'un village des projets militaires, une fantaisie inspirée des luttes du Larzac, etc. Et dans la trilogie Nicopole, un prisonnier spatial atterrissait dans un pays dystopique gouverné par un parti fasciste inspiré de Mussolini. Or, le voilà qui passe à la télé. Et comme vous êtes au courant de ça, et comme il a raconté plein de merde, et ben effectivement, tout ce que les médias comptent d'émissions pourrites, et notamment à la télé, Enki Bilal, c'est quand même une prise de guerre, c'est intéressant pour tous les faflards.
Ouais.
Et il se répand dans la Tribune du Dimanche, notamment à l'occasion de la parution d'un livre. Je pense que l'Occident est en train de s'effondrer sur lui-même, qu'il déclare. Il est profondément écœuré par la situation, le comportement de la majorité des politiques. On a laissé le cheval de Troie entrer. Cela fait 30 ans que j'annonce à mes copains qu'avec l'islamisme, on est foutu. Dans 20 ans et probablement au moins, peut-être seulement 10, on ne reconnaîtra plus l'Europe. Genre grand remplacement. Faudrait pas vieillir. Enki Bilal, un monsieur charmant que j'avais eu la chance de rencontrer et d'interviewer il y a très longtemps, pour Canal B déjà. Mais c'est bien triste, c'est toute une époque. Genre, je vous dis, j'étais tellement sidéré par cet article, là, paru sur Info Libertaire. J'ai fouillé à droite, à gauche, surtout à droite, justement. Et effectivement, la droite, alors l'extrême droite s'en fait des gorges chaudes. Et d'autres journaux, on va dire, plus pondérés, sont un peu zébédénés aussi. Triste époque, mon bon Plume.
Complexe époque. Ouais. Interlude musical ?
Yes, pour nous remonter le moral.
The Jam. The James When You Were Young. On a le temps avant de retrouver monsieur Yomgi alias Guillaume. Hein. Il n'avait pas compris au départ, Roger.
Ah oui, j'ai trouvé, je vous ferai dire.
On a le temps avant de le retrouver d'un peu de chronique. Moi, je vous propose un petit manga. Ça s'appelle La Chasse aux Cadavres. C'est monsieur Osui Yamazaki qui fait paraître ça en France. C'est Casterman qui s'en empare dans sa collection Saka. 3 épisodes sont déjà sortis au Japon apparemment. Il y en a 2 qui viennent de sortir en France. Eh ben, c'est vachement bien. Il y a vraiment un fond Spielberg puisqu'on va suivre en fait 4 gosses qui vont partir en vélo à la recherche en fait d'une élève qu'ils ont connue. Alors qu'ils étaient très jeunes, hein, ils sont maternels ces gamins-là. Ils sont dans le collège. Elle a disparu. Et donc, ils vont se lancer en fait dans une quête pour la retrouver parce que celui qui est un peu le chef de bande, un petit gars qui est assez débrouillard, assez téméraire, qui s'appelle Inoui, qui va vraiment être celui qui est la locomotive du groupe, quoi. Il s'est appuyé sur le seul document que la presse, etc., a diffusé dans cette affaire. Enfin, la seule piste qui permettait de trouver un éventuel coupable d'un acte criminel, une espèce de photo qu'avait envoyé avec l'appareil, le portable de la jeune fille, d'un type avec un masque de Tengu devant un pylône, comme ça, une photo presque on dirait un truc de revendication, tu vois, d'un tueur. Le Tengu, c'est un dieu japonais avec un long nez pointu qui enlève les enfants. Et en fait, le gamin, il s'est intéressé au pylône et en faisant des recherches, il pense avoir trouvé le pylône qui est en arrière-fond, donc le but c'est de se rendre à ce pylône en traversant la campagne japonaise en vélo. C'est un assez long périple. En train, à un moment ils évoquent l'idée que ça se fait en 2 heures en train, donc là les gamins ils partent vraiment... En fait ils ont raconté tout un bobard à leurs parents pour s'échapper. Et en fait, ce petit quatuor là, fort sympathique. Alors t'as le petit gros, le malin, et puis une fille, un peu garçon manqué.
C'est le club des quatre.
C'est le club des quatre. Tu vois, ça joue vraiment avec ça. Mais en même temps, c'est un bon polar parce que leur périple et surtout le fait qu'ils tiennent une espèce de petit podcast fait que ça va intéresser la police, ça va intéresser une journaliste underground, peut-être même que ça va intéresser réveiller l'éventuel Tengu, quoi, l'éventuel tueur. En fait, tu sens bien qu'autour d'eux, d'un seul coup, il y a tout un bruissement et plein de personnages vont arriver et s'intéresser, suivre ce quatuor, quoi. Et c'est une espèce de grand road movie. Avec des scènes aussi très tu sais, les gamins qui discutent entre eux, c'est assez réaliste, c'est assez beau, c'est vraiment très Spielberg dans l'esprit, un Stand By Me ou un Goonies, tu vois, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment bien au niveau du dessin, ça ressemble pas mal à du Urasawa. Il faut penser à Pluto, ce par exemple. Et donc c'est vraiment un beau départ. Alors 2 tomes sont déjà sortis. Ça s'appelle La Chasse aux Cadavres. C'est paru aux éditions, enfin dans la collection Saka, qui a des éditions Casterman. Et c'est Osui Yamazaki qui nous propose ça. Mais ça vous plairait, hein? Vous auriez peut-être un peu peur, mais ça vous plairait.
La Chasse aux Cadavres, comment dirais-je, ouais. Chez Casterman, vous dites.
Ouais, ouais, ils ont une petite collection manga, ou un label manga, je sais pas trop comment il faut dire, mais il y a des bonnes trouvailles.
Et au niveau du dessin, on est tout dans le manga classique, il n'y a rien de particulier.
Ouais, mais c'est très dynamique. Enfin, si, ça ressemble à du Urasawa, c'est pas n'importe quoi. Moi, j'aime bien, mais c'est très dynamique. C'est inventif, le manga, hein. Vraiment, dans la narration, ça change. Tu vois bien que c'est pas formaté école franco-belge au départ, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Non, vraiment, je vous le conseille. J'aime bien ce petit manga.
Alors c'est marrant parce que je vais rebondir sur quelque chose qui peut concerner les plus jeunes que nous, en tout cas assez facilement.
Il y a de la place pour les plus jeunes que nous.
Voilà, nous devions recevoir Monsieur Boris Miroir à Académie, vous rappelez. Et puis ça s'est pas fait.
Non.
Ça s'est pas fait et c'est dommage parce qu'on devait l'interviewer. Déjà parce qu'on l'a jamais rencontré, ce monsieur, donc ça aurait été intéressant. Et en plus de ça, on voulait parler de Super Pixel Boy, dont le tome 2 aux éditions Delcourt vient de paraître. Super Pixel Boy, avec monsieur Loïc Clément.
Ah oui, vous l'avez prêté à Quédébule.
Voilà,
le soir.
Mais vous aviez du mal à ouvrir les yeux, vous étiez un petit peu flapito.
Moi, je trouve que les vignettes sont petites.
Alors, il n'y a pas que ça, mon bon Erwan.
Je trouve que l'album, il est un peu écrasé.
Super Pixel Boy, c'est génial. En plus, il y a une couverture, parce que regardez, et quand on la bouge, comment que ça s'appelle? Il y avait ça au milieu des rondes-en, quand on était petit.
Ouais, c'est le là où ça bouge.
Voilà,
j'ai appelé ça le là où ça bouge.
Où
l'image
ça bouge.
Qui bouge.
L'image qui bouge quand on l'a fait, on l'a fait pivoter de haut vers le bas. Voilà, c'est très 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 vieux. Moi, ça me fait toujours rire. En plus, il est gros. C'est un gros truc qui pivote. Je vous ferai dire. Et c'est collé en couverture. Et Super Pixel Boy, ça parle de quoi ? J'en ai pas. Alors, on imagine, mais c'est plus votre cam, Super Pixel Boy. J'étais surpris que vous me laissiez le dossier.
Mais non, mais c'est de l'humour. C'est de l'humour. Donc, c'est votre cam. Puis c'est quoi ?
Oui.
C'est chez qui ? Patakès, non ? C'est pas ça ?
Delcourt, mais c'est pas chez Patakès.
Ah, oui.
C'est pas chez Patakès.
Parce que d'habitude, Patakès, c'est vous.
Oui. Et c'est pas Patakès. Et
vous n'assumez pas cet album, Roger ?
Mais c'est pas ça. C'est que le sujet, vous aurez certainement plus parlé que moi, parce qu'avec Super Pixel Boy, plus exactement avec Loïc Clément et son avatar Super Pixel Boy, eh bien, on découvre toute l'histoire des jeux vidéo.
Mais j'ai pas été tant de jeux vidéo que ça, moi.
C'est vrai ?
Bah non.
Je vous croyais plus jeux vidéo où tu es encore du Bosch sur quand je vous ai connu il y a 4-5 ans, vous en tuiez encore.
Oui, ouais. Ah, il y en avait encore plein.
Donc,
on trouvait encore des nazis à abattre.
Voilà, Monsieur Plume qui prétend ne s'être jamais intéressé aux
jeux
vidéo.
Non, mais là, c'est vraiment pour les gros geeks. Là, c'est pour ceux qui ont suivi tous les PlayStation et tout. J'en ai une ou deux, et puis j'ai un ou deux jeux sur mon PC. Mais
ah ouais,
c'est...
quand même, parce que moi, j'ai rien eu de tout ça. Mon
mais
fils, oui.
Vous êtes la télé est en noir et blanc, non ? C'est pas ça l'idée au départ pour vous.
Le jeu auquel on joue. Ouais, c'était quand même le ping-pong, ping.
Vous m'aviez dit, vous aviez juste des cailloux et des boîtes de conserve.
Oui, dans la rue.
L'école
de la rue. Quand on allait chez notre copain riche, il y avait ça, le ping-pong à la télé. Et c'était assez rock'n'roll. Et là, avec ça, on découvre toute l'histoire, effectivement. Ça, c'est pas des jeux d'arcade, on n'appelle pas ça des jeux d'arcade. Aidez-moi, parce que c'est vous.
Non, je crois que c'est des consoles. Il y a peut-être des jeux d'arcade, mais c'est surtout des consoles.
Parce qu'ils
jouent à la maison.
Ouais, avant qu'il y ait beaucoup de consoles, ils jouaient quand même dans les endroits. Il y avait des
ouais.
vidéos.
Vidéodrome,
vous avez été là-dedans.
Oh oui, j'ai dû en faire un peu, ouais.
Ah,
tu
voilà.
sais, il y avait le Space Invader, oui, j'ai
ouais,
fait
voilà.
quelques trucs quand même.
Voilà. Et c'est très amusant. Et on voit le gamin vieillir, on le voit au début, il trempe, il tombe dans la marmite des jeux électroniques dans le tome 1, mais il est encore en primaire. Et là, il est au collège, il arrive au collège, et puis au fur et à mesure, les jeux se sophistiquent. Et c'est pas plus mal, parce que je ne sais pas comment Monsieur Boris Miroir ne s'est pas flingué les yeux, parce qu'il a tout reproduit. Toutes les, vous savez, les petits bonhommes, le Mario Bros et compagnie, tout dessiné.
C'est à l'ordinateur, je pense.
Ouais, en vilain pixel, il a dû en chier, et surtout se ruiner les yeux complètement. Alors, ce n'est pas qu'un catalogue de jeux vidéo, l'histoire des jeux vidéo, c'est aussi ce qui se passe dans la vie de Super Pixel Boy.
Ouais, il y a une fille.
Il y a des filles, et puis il y a aussi son... Moi, j'aime bien sa tata. C'est surtout sa tata qui l'emmène chez lui pour être peinarde. Pendant ce temps-là, elle reçoit ses amants, et ses amants, elle le pète devant la télé avec une console, et puis il ne voit pas ce qui se passe derrière. C'est assez, c'est assez drôle. Donc ça permet aussi un petit peu aussi de sortir des jeux vidéo, parce que même moi, je dois vous le dire, ça me flingue les yeux encore et toujours, ce genre de truc. En tout cas, c'est très bien pour les geeks, dit Monsieur Plume, mais pas que, parce que moi, j'en suis pas un, n'ayant pas pu l'être.
Parce que c'est humoristique aussi.
Voilà, c'est très drôle, et on apprend des trucs. Alors, heureusement, c'est bien fait, parce qu'il y a, attention, il y a des lexiques à la fin, etc., et parce que moi, ça fait longtemps que, assez rapidement, le Super Pixel Boy utilise des termes dont je ne comprends pas la moitié du sens, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Et pour faire un peu de misère à Monsieur Boris Miroir, il n'est pas venu à l'interview. Et il y a une interview qui est rigolote, justement, un portrait croisé de messieurs Loïc Clément et Boris Miroir, qui répondent aux mêmes questions. On leur pose les mêmes questions. Et il y a la question qu'on pose à Boris Miroir, la scène de film qui l'a particulièrement traumatisé. Et il dit « Impossible de se souvenir du titre du film, j'avais moins de 3 ans, c'était au sujet du triangle des Bermudes. Je me souviens beaucoup trop clairement d'une scène à bord d'un hélicoptère. » Si vous nous écoutez, monsieur Boris Miroir, ça s'appelle « Le triangle du diable ». Et moi aussi, ça m'a foutu une chiasse verte. Il est horrible. Parce que moi, « Triangle du diable »,« Triangle des Bermudes », je m'attendais à des martiens. Non, c'est pire, c'est le diable déguisé en curé. Voilà comment que ça s'appelle, monsieur Boris Miroir, et si vous avez le courage de le regarder. Eh bien, moi, je peux vous dire non. Super Pixel Boy, tome 1 et 2, paru aux éditions Delcourt. C'est très très bien, pas gros, et c'est bien parce que comme je commence à plus avoir beaucoup de place, vraiment beaucoup beaucoup de place, c'est un petit format épais, c'est intelligent.
Interlude musical.
Yes. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up, an ox, beat, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high, fire and a fire, representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, tethered crop, look at that, no plane, fine, then, uh-oh, overflow, population, common poop, but it'll do, save yourself, serve yourself, world, serve its own needs, listen to your heartbeat, dummy, with the rapture and the reverend and the right, right, you patriotic, patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight. It's the end of the world as we know it, it's the end of the world. Slice and burn, return, listen to yourself, churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motor, step down, watch a heel crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right?
C'était bien sûr REM, Is the End of the World as We Know It, que je dédicace au copain Vincent, tiens, parce que je sais qu'il kiffe ce morceau. Il nous reste un tout petit peu de temps, je vais me permettre de faire une dernière chronique, mon bon Roger. Et en même temps, ça nous permet de lancer un appel à Saint-Malo. Ils avaient enregistré les plateaux qu'on avait faits et on avait rencontré Monsieur Petit Rapace. Ça serait cool si on pouvait récupérer l'interview, puisqu'il devait nous la transmettre. Voilà, un appel est lancé. Du coup, j'en profite qu'on a encore un peu de temps pour chroniquer l'album de Monsieur Petit Rapace qui expliquait pourquoi on l'avait rencontré. Ça s'appelle Slum Kids. Si vous avez du goût, vous lisez Low Rider et vous avez eu un petit récit en guise d'apéritif dans le deuxième épisode de Low Rider, puisque vous avez pu découvrir Monsieur Petit Rapace et puis son univers. Slum Kid, ça se passe dans une... c'est pire que la décharge, quoi. C'est vraiment le fond du fond. En fait, c'est la décharge du bidonville.
Ouais.
C'est pire que les favelas, quoi. Et dedans, dans cette immense poubelle, y a une vie, en fait. Il y a des gens qui habitent, qui vivent, qui survivent, plutôt. C'est un monde terrible, impitoyable, où il n'y a pas vraiment la police qui vient traîner. Tout le monde est surarmé. Tout le monde cherche à survivre. Et on va suivre une bande de trois gamins. Ils s'appellent les Lombriques. Il y a une fille, Bambi, il y a Angie, le petit teigneux, et puis il y a surtout Lombric, un pauvre petit gars déjà bien abîmé. C'est le plus petit de la bande, il est vraiment très jeune.
Et, il a une tête de mutant un peu.
Ouais, il est un peu déformé, il est mutilé. Enfin, de toute façon, on est vraiment dans le fond du fond du fond du fond, quoi. On vit au milieu des poubelles et des gangs, finalement. Et c'est ça en fait l'intérêt de, enfin, ce que veut faire Petit Rapace, c'est montrer comment ces gamins vont survivre et surtout à quel prix peut-on essayer de survivre à tout prix, quitte à y laisser son âme, son humanité, la gentillesse. Est-ce qu'il faut vraiment devenir une boule de haine? C'est un peu ça le fond de l'album, qui a pas à mettre dans toutes les mains. Il y a une scène, l'album, on va découvrir nos personnages, etc. Il va y avoir un crescendo, une scène absolument horrible. En plein milieu, et après, l'histoire va prendre une dimension fantastique, vraiment réussie et inattendue. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. J'adore le dessin. C'est du cartoon mangaïsé
très dynamique.
Et survitaminé. Le type est hyper gentil. Monsieur Petit Rapace, c'était hyper gentil. C'était pas un exercice facile pour lui de venir parler devant des gens.
Parce qu'il croit que c'est facile pour nous.
Ouais, je sais pas, on a un peu de bouteille, mais il a vraiment bien parlé de son album. Donc, Saint-Malo, si vous pouvez nous le renvoyer, ça serait vraiment super. Et en tout cas, vous, auditeurs, précipitez-vous, achetez ce Slum Kids. Premier épisode, ça va être une espèce de série un peu à la Rougon-Macquart, c'est-à-dire Macquart. On va avoir plusieurs histoires avec plusieurs personnages qui finalement vont créer un univers, puisque leurs histoires peuvent des fois s'interconnecter, où on peut apercevoir le personnage d'un épisode dans l'autre. On nous montre là, vraiment, on essaye de nous donner une vue d'ampleur de cette décharge. C'est vraiment bien. Donc Slum Kids, premier épisode, c'est paru bien sûr sur le label 619 qu'on adore. Bon, on retourne à Saint-Malo. Êtes-vous prêt, Roger?
Nous irons.
On retourne à Saint-Malo. Oh la vache. Là, vous croyez être à la radio, mais en fait, vous êtes dans votre lit.
Oui, en fait, je rêvais que j'étais dans mon lit. C'est un affreux cauchemar. Je viens de me réveiller et je suis toujours devant le micro.
Ah, ça danse sur les tables un jour et le lendemain, il n'y a plus personne.
J'ai plus 20 ans.
Allez, interlude musicale et on retourne donc à Saint-Malo pour revoir Monsieur Yomgui Dumont pour 109 rue des Soupirs chez Casterman.
Qui ça?
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family.
Neat, sweet,
petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family.
Eh bien voilà, nous sommes toujours à Quai des Bulles pour la deuxième interview et nous rencontrons maintenant Monsieur Yomgui Dumont, bonjour.
Bonjour.
Pour qui est venu entre autres présenter à Quai des Bulles 109 rue des Soupirs, fantôme de le titre là s'appelle Fantôme de soirée, paru aux éditions Casterman.
Tout à fait.
Cinquième épisode.
C'est ça, c'est le cinquième.
Voilà.
Cinquième épisode. Voilà,
j'ai eu un album en avant-première aussi aux éditions Jungle, qui est le tome 7 de la Brigade des Cauchemars.
Yep, sur lequel on reviendra, c'est prévu voilà. Dans l'interview.
Il travaille, ce monsieur, il travaille.
Tout ça, j'ai l'impression qu'on essaye. Il doit être de moins en moins payé. bien que vous ne soyez
plus
pas...
en plus dopé.
Ouais, monsieur Dumont, bien vous ne soyez pas à nouveau venu dans le monde de la BD, c'est quand même la première fois que nous vous rencontrons. Si vous n'échapperez pas à la question traditionnelle de Plume et Pinceau, comment êtes-vous tombé dans la marmite de la bande dessinée, monsieur?
Ouais, ça ne va pas être très original, j'imagine, si vous avez croisé quelques auteurs. Moi,
on
j'ai
le demande
toujours...
à chaque fois quand les bah, auteurs.
Voilà. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée depuis que je suis tout petit. J'ai beaucoup de bandes dessinées à la maison, beaucoup de lectures, du franco-belge, Tintin, Astérix. Et ça m'a jamais lâché, j'ai fait des études de dessin. J'ai pas forcément commencé par la bande dessinée. J'ai fait de l'illustration, j'ai bossé dans le jeu vidéo et dans le multimédia à l'époque, on appelait ça comme ça. Et après je suis venu à la bande dessinée, aujourd'hui je fais plus que ça quasiment.
D'accord.
Ah ouais, mais, enfin, beaucoup, nous-mêmes, petits, nous dessinions, mais vous avez persévéré, vous avez plus de volonté que nous.
Quand des enfants ou d'autres personnes se questionnent sur le fait que comment je me suis mis à la bande dessinée, tout ça, je dis souvent que enfant, tout le monde dessine et moi je me suis pas arrêté. Et la plupart des dessinateurs, c'est comme ça. C'est qu'ils se sont juste pas arrêtés de dessiner et puis qu'à un moment donné, il y a le regard des autres qui fait que... qui disent « Ah, mais c'est bien !» Et du coup, on continue. Puis voilà, j'ai jamais lâché.
Mais Arbeit, c'est vrai qu'on se rappelle jamais à quel point les dessinateurs, vous dessinez tous les jours.
Oui, on parle souvent de métier passion, mais c'est quand même un métier... Enfin, en tout cas, moi, je le conçois comme un métier. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec d'autres dessinateurs. Moi, en vacances, par exemple, je ne touche pas un crayon. Voilà, c'est comme ça.
Petite abstinence.
Et voilà, mais après, pour me remettre dans le bain, et j'adore mon métier et tout ça, mais ça reste un métier, avant tout.
C'est quoi les œuvres qui vous ont marqué quand vous étiez jeune lecteur de bande dessinée ?
Œuvre ou auteur ?
Œuvre ou auteur ?
Oui, ouais. Alors c'est vrai qu'au démarrage, on a plutôt des personnages qui nous marquent plus que d'autres. Moi, j'ai tout de suite été happé par l'univers de Franquin, en fait. Spirou et puis Gaston Lagaffe. C'est vraiment le dessinateur que je cite, enfin mon dessinateur d'enfance. Puis après, j'ai touché à tout, j'ai lu de tout et j'ai eu des petites pauses pendant ma jeunesse où je n'ai pas lu de bande dessinée. Puis quand j'ai fait des études de dessin, je me suis replongé dedans, Loisel, tout un tas d'auteurs. Et puis aujourd'hui, j'ai des auteurs que je suis toujours, alors que je dessinais pas encore, je les voyais démarrer. Donc Larsenet, Blin sont des auteurs que j'apprécie énormément, par exemple.
Alors moi, je vous ai découvert avec Chambre Noire. J'avais fait l'acquisition de votre album parce que, déjà, vous décrivez une période que j'adore. Moi, la période, je dirais, avant la Première Guerre mondiale, mais qui va aussi au-delà de l'entre-deux-guerres, cette espèce de période un peu bizarre, et surtout avant la Première Guerre mondiale, où, notamment, le spiritisme est loin d'être considéré comme de la pure charlatanerie, même si parfois ça l'était, peut-être que ça l'était par tout le temps, j'en sais rien, mais moi qui suis très crédule, j'ai toujours été intéressé par ce genre d'univers, et dans cet ouvrage-là, Chambre Noir, vous nous racontiez, vous nous narriez les aventures de la famille Pénouquet qui permettait aux bons bourgeois de venir discuter, s'entretiendre avec sa famille, alors qu'en fait, sa famille défunte, hein, 100 ans, alors qu'en fait, c'était les jumeaux de la famille qui, déguisés en spectre, posaient sur les photos et arnaquaient le client. Et jusqu'au jour où un vrai spectre va apparaître. Et tout à l'heure, alors qu'on était en train de pourrir l'émission parce que vous alliez nous dire le fin mot de l'histoire, dites-nous en plus sur cette histoire.
Bah alors, avec Olivier Blaise, le scénariste, on est parti d'une histoire vraie, de l'histoire. Alors, je ne me rappelle jamais du prénom, si c'est Édouard ou Edmond, mais Edmond ou Édouard Buguet, qui était fan de spiritisme et de photographie et qui avait arnaqué, il a eu un procès d'ailleurs sur le dos, a arnaqué plusieurs personnes en faisant des photomontages à partir de vraies photos, donc l'ancêtre de Photoshop. Et du coup, il a eu un procès sur le dos et après, du coup, il a fait de la photo, l'ancêtre du truqueur et il vendait ses trucages après. Mais il s'est pris un procès, il a escroqué plusieurs personnes comme ça, en faisant croire qu'il les prenait avec les fantômes de leurs ancêtres ou autres.
Donc on est parti de ça. C'est un peu le Far West des affaires.
Ouais, c'était un peu un monde inconnu, la photographie, donc à l'époque. Là, et si je me souviens bien, Chambre Noire, c'est en 1876, donc c'est vraiment le démarrage. Les prémices et le spiritisme à l'époque était hyper en vogue aussi, donc voilà.
Et c'est vrai que Roger m'a fait découvrir cet album et puis on a l'impression que du coup ce thème c'est devenu un peu un fil rouge quand même finalement dans votre carrière, ce goût pour les fantômes
et le frisson, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et bon, après c'est vrai que moi je viens plutôt de la jeunesse, donc j'ai travaillé surtout autour de la jeunesse. Chambre Noire en l'occurrence avait été une autre grande surprise dans la sélection jeunesse d'Angoulême, alors que il y a quand même quelques scènes qui sont assez
ouais,
crues.
Ça m'a foutu les trouilles, moi.
Ça foutait un peu les trouilles, la trouille, et puis il y avait quelques scènes dans une maison close, par exemple. Donc c'était pas forcément sur la jeunesse, donc pour la jeunesse. Mais c'est vrai qu'il se trouve que ce sont des univers le fantastique. Et en particulier, les choses qui font un peu frissonner, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Enfin, je consomme beaucoup de fiction de ce genre, beaucoup de films d'horreur, des choses pas du tout pour les enfants. Mais il se trouve que j'aime beaucoup raconter ces histoires-là.
Et du coup, comme vous dites, j'aime faire peur. Enfin, j'aime les histoires qui font peur. Je m'adresse à un public jeune. Comment on fait peur aux enfants sans leur créer des traumas qui fait qu'ils
vont
avoir
des procès au cul,
ils vont finir dingo.
Alors après, ça dépend du ton qui est abordé dans la bande dessinée. Donc, en l'occurrence, dans Son Offre des Soupirs, on est plutôt sur l'humour, donc là, il n'y a pas vraiment de frayeur. Même si à chaque fois, il y a des parents qui demandent est-ce que ça fait un peu peur. Bon, je rassure tout de suite, hein, le ton mené par Monsieur Tan là, est toujours très marrant et très rigolo, donc il n'y a pas de souci.
L'auteur de la série Mortel Adèle, c'est
notamment,
ça,
c'est le papa de Mortel Adèle, avec qui j'ai la chance donc de travailler sur cette série. Et après, sur la frayeur en bande dessinée pour la jeunesse, alors il se trouve que je travaille avec un autre grand scénariste, enfin plutôt auteur de polar que scénariste, mais il m'a fait la chance de travailler avec moi sur la Brigade des Cauchemars. Donc Franck Tillier, lui, il écrit des choses pour les adultes qui sont très dures. Il s'est un petit peu adapté par rapport à la jeunesse, même si moi j'aime tirer un petit peu vers les choses qui font un peu peur quand même, parce que on se rappelle tous de nos frayeurs d'enfants qu'on avait en lisant des contes par exemple, qui sont toujours assez effrayants malgré tout. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me passionne, d'essayer de faire peur. Et faire peur en bande dessinée, c'est peine perdue, c'est partie perdue d'avance plutôt, parce que au cinéma, on a le son, on a l'image qui bouge. Là, en bande dessinée, c'est plutôt de l'angoisse, des sentiments d'angoisse qu'on va apporter. Alors après, avec la brigade, on apporte toujours une ouverture vers quelque chose, une résolution, quelque chose.
Et puis on peut regarder à la fin, quand on est trouillard comme moi, pour savoir si le héros s'en sort. Moi, je regarde à la fin et après, je relis.
On se spoil, on s'auto-spoil. C'est l'avantage de la bande dessinée. Hein. Moi aussi, j'ai tendance à aller très vite et puis à revenir à la lecture après. Mais de toute façon, faire peur en bande dessinée, c'est quelque chose qui est... l'année dernière, j'ai vu une exposition Angoulême d'un mangaka, Junji Ito, je crois, qui m'a complètement scotché. D'ailleurs, j'ai acheté tous les livres pour les offrir à Franck Tillier parce que j'ai trouvé ça génial. Et lui, il a réussi à me faire peur en BD. Voilà.
C'est parce qu'en plus, c'est un univers, c'est le fantastique japonais. C'est pas les codes qu'on a, nous, de fantastique.
Ouais,
il y a vraiment des créatures.
Il y a des choses qui sont un peu malaisantes. Alors, on sursaute pas devant une bande dessinée, mais on peut quand même avoir des petits frissons dans le dos.
Oui, moi, Burns m'angoisse particulièrement. Clouds aussi.
Oui, alors après, il y a des choses qui sont... Mais c'est vrai que le jumpscare en bande dessinée est compliqué à faire, mais en tout cas, les sentiments de peur, on peut l'insuffler. Bon, après, pour la jeunesse, il faut quand même ouvrir sur des choses qui permettent de régler les peurs. D'ailleurs, la brigade
là,
des cauchemars...
C'est ambigu, parce que d'un côté, il faut faire... Oui, on dit les petits et tout, il faut faire attention, mais pourtant, ils aiment bien.
Bah on aime, on se rappelle, moi je m'en rappelle.
Il y a Petit Vampire de Sfar qui a cartonné, il y a quand même pas mal de BD comme ça.
Des choses horrifiques qui sont dédiées aux enfants, forcément. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse a tendance aussi à consommer pas mal de... Enfin, ils sont friands de choses horrifiques aussi, hein. Même si ils peuvent avoir des cauchemars la nuit, mais il ne faut pas démarrer trop tôt, de toute façon, mais...
Pour revenir à 109 rue des Soupirs, peut-être qu'on pourrait, c'est le cinquième épisode, mais on pourrait revenir au tout début. Comment ça s'est monté, cette affaire, l'origine de cette série, Monsieur Tran, comment vous l'avez rencontré?
Alors, Monsieur Tan, ouais.
Monsieur Tan, pardon.
C'est l'éditeur, tout simplement, qui nous a mis en relation. Donc Antoine Doll, c'est Monsieur Tan, c'est son pseudonyme, mais il accepte les deux volontiers. avait écrit la première histoire et l'éditeur avait bien aimé mon travail sur un autre ouvrage que j'avais fait chez Actes Sud, en l'occurrence un travail d'illustration, donc était venu vers moi. J'ai commencé à faire des petits personnages, ça a tout de suite collé. Et c'était parti pour 5 tomes, puisque c'est le 5e et le 6e, j'espère, l'an prochain.
Alors, le 109 rue des Soupirs, vous allez peut-être m'arracher les yeux, mais moi j'ai pensé, alors je l'ai découvert avec le numéro 5, hein. J'ai vraiment profité de votre venue, je me dis, je vais choper quand même l'auteur de mes angoisses, j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble. Maintenant je connais l'origine de votre surnom déjà, c'est déjà pas mal.
Oui, ouais, ça faudrait pas le dire.
On va pas le dire.
Le verlan, ça vous parle pas, quoi.
Non. J'ai pas pu m'empêcher de penser un peu à la série animée Les Zinzins de l'espace. C'est-à-dire que Les Zinzins de l'espace, c'est un dessin animé français d'ailleurs. Il y a pas mal de scénaristes.
Oui, je crois, les studios Gaumont, je crois.
Où on a 4-5 aliens qui se scratchent sur Terre. Ils sont dans une maison. Et ils se planquent dans le grenier de la maison. Et régulièrement, il y a des gens qui viennent dans la maison les faire chier. Donc, ils ont une machine à se transformer. Et ils vont essayer de chasser les intrus. Et là, pour rappeler un peu le pitch, on a un petit garçon qui vient d'aménager dans une maison un peu bizarre, dans le tome 1, un peu isolé de la ville. Et puis, on s'aperçoit que ses parents, assez rapidement, le laissent tomber. C'est ça. Hein.
Ils sont c'est jamais les parents là. Qui le laissent pas tomber, mais qui travaillent beaucoup, beaucoup.
Oui, c'est ça. Voilà.
Et du coup, ils essayent de lui mettre des babysitters dans les pattes. Voilà. C'est d'ailleurs le sujet du premier tome.
Et pote avec les fantômes qui habitent dans la maison.
Voilà, et ça devient sa famille de substitution. Alors, c'est vrai que j'avais jamais fait le rapprochement avec. Je connais pas bien la série Les Zinzins de l'espace, mais maintenant que vous en parlez, ça m'évoque des choses. Et je sais pas si Antoine, lorsqu'il a écrit l'histoire, avait ça en tête. Bon, parfois, il y a toujours des choses qui sont bien dans le coin de la tête et puis qui ressortent différemment. Alors après là c'est quand même alors il y a ce thème de cette maison avec ses fantômes qui n'ont pas du tout envie d'être dérangés et qui prennent en affection ce petit garçon Elliot qui est un peu laissé par ses parents parce qu'il travaille beaucoup. Et après il y a tout un tas de thématiques qui sont développées autour des 5 tomes. Il y a on est beaucoup autour de la famille. C'est une série à la fois drôle mais un petit peu décapant de temps en temps et très tendre aussi dans ce qu'elle évoque parce que bon, le fond est pas très rigolo hein, parce que quand on a un petit garçon qui est de 9-10 ans, laissé tout seul dans une grande maison, alors il le laisse pas vraiment tout seul parce qu'il lui met dans les pattes, on peut dire ça comme ça, des babysitters qui s'avèrent pas forcément être des babysitters, parce que dans le premier tome, il y a un personnage qui vient se faire passer par un babysitter, il s'avère que c'est tout autre et que lui il est plus intéressé par les fantômes que par le petit Elliot. Mais il y a tout ce fond autour de la famille, recomposé, autour de l'amitié. Il y a souvent des choses très positives qui ressortent de ça et assez tendres. Voilà. Et avec un humour quand même, parce que Antoine a tendance à écrire des dialogues qui vont à 100 à l'heure.
Ah oui, il y a du jeu de mots dans tous les sens autour de la mort.
Moi j'adore, hein. Je suis hyper client. Donc, voilà.
Il y a un rythme de fou d'ailleurs à ce niveau-là. Ouais. Ça tombe comme à Gravelotte les jeux de mots. C'est incroyable l'écriture.
Alors on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Grune, dessinateur lui d'extraterrestres et autres bestioles exotiques, outre-espace. Vous êtes un dessinateur de fantômes. Comment fait-on pour rendre un fantôme crédible ? En quoi vos fantômes se distinguent de ceux des autres ? Moi, ce qui me fait rigoler, moi, dans vos fantômes, c'est qu'ils touchent pas le sol. Et par contre, ils ont toujours du coup, comme ils touchent pas le sol, ils pourraient volter plus haut. Non, c'est à moitié chiant, ils ont les pattes à moitié de traviole derrière.
Ouais, ils n'osent pas toucher le sol.
Ils n'osent pas toucher le sol.
Je sais pas, je me suis jamais posé la question, mais pour moi, c'est toujours en lévitation. Effectivement, ça leur arrive de voler et de traverser les murs. De temps en temps, ils se les prennent aussi. Enfin, bon,
à 20 cm du sol et les pattes recourbées comme s'ils ne pouvaient pas toucher le
sol.
Oui,
alors voilà. Alors, toute la question était de savoir aussi, par exemple, le fantôme, on pense souvent à la transparence. Alors, graphiquement, ça peut être un vrai casse-tête parce que du coup, on perd beaucoup.
Ouais.
J'ai fait des tests et graphiques, là, on parle technique hein, presque de BD. Mais ça marchait pas parce qu'en fait on les voyait plus. Voilà. Et après, 109 a eu une histoire la série 109, les trois premiers tomes étaient sortis en bichromie. Donc il y avait tout un travail sur le trait qui était un peu différent. Et là, quand on est passé en couleur, il y a eu une réflexion aussi sur le fait de donner une couleur à chaque personnage. Bon, après, il y a le travail graphique, mais là, c'est plus un travail de dessin au-delà du fantôme. Qui fait que moi j'ai vraiment caractérisé chaque personnage par des formes très particulières. Il y a le Walter le cowboy qui est plutôt dans les carrés, Eva la diva qui est tout en rondeur, Amédée l'ado un peu rebelle qui est en angle et en triangle, et Angus le fantôme poète qui est tout mou, une ligne molle, une courbe.
Et qui a un pouvoir que les autres n'ont pas, semble-t-il. Il arrive à lire les textes de Monsieur Tan.
Alors là, c'est vrai que Monsieur Tan, dans ses scénarios, aime bien briser le quatrième mur. Donc il y a un autre personnage important dans la série 109 qui est la voix off, en fait. Donc du coup, il y a une discussion. Souvent, Angus, lui, va converser avec la voix off parce que lui l'entend alors que les autres ne l'entendent pas.
Ouais, ça c'est rigolo. Donc on peut avoir effectivement des capacités différentes quand on est fantôme en fait.
Oh oui, alors après les fantômes, on peut tout imaginer. Mais c'est vrai qu'on a le classique entrer en lévitation, se rendre invisible. Là, c'est pas le cas. Si on les voit, on les voit. Traverser les murs, mais après tout un tas de choses peut-être un peu plus horrifiques. Là, dans le 109, c'est quand même des fantômes assez classiques et plutôt rigolo.
Bah là, ils sont soumis à un problème très, très humain, très vivant. Hein. C'est un voisin pénible, quoi. Enfin, c'est
des voisins.
Ils sont tripotés dans la. Ils mettent la musique à fond, quoi.
Et des voisins fêtards qui mettent la pagaille et ça les empêche de dormir, ce qui est un peu le comble pour des fantômes parce qu'eux dorment la nuit aussi. voilà. Et donc du coup ils vont essayer de s'immiscer un peu dans la fête, à la fête pour que ça s'arrête quelque part. Donc ils vont essayer de trouver un moyen de au moins de leur faire baisser la musique, on va dire ça comme ça, puis après ça part forcément en vrille parce que c'est le sang-neuf et des soupirs.
Alors, est-ce que c'est parce que vous multipliez, comme on disait tout à l'heure, vos travaux un peu partout, bah faut bien vivre. Vous travaillez donc également, vous avez deux autres séries, une dans Okapi et l'autre dans Archaeobug.
Alors Archaeobug c'est très ancien donc c'est terminé, mais ça m'est arrivé de travailler effectivement avec Science et Vie Découverte à l'époque.
Ça,
d'ailleurs sur des scénarios d'Olivier Blaise qui était le scénariste de Chambre Noire.
Dans Okapi, vous faites une autre série, hein, c'est
alors,
ça.
Alors Okapi, ça continue et Okapi, donc c'est Raph et Potatoes qui a eu la chance de vivre un petit peu en album aux éditions Glénat, mais qui continue toujours aujourd'hui dans Okapi. Et figurez-vous que le prochain numéro, cette jeune fille de 14 ans, ça fera 20 ans qu'elle est bloquée à 14 ans à peu près, puisque ça fait 20 ans que je dessine Raph et Potatoes dans Okapi.
Ah, excellent. Donc
et c'est toujours un plaisir
ça.
D'ailleurs. Voilà. Et bon, j'ai encore une de mes filles qui est au collège, donc j'ai encore un petit peu de munitions, puisque là j'ai la chance d'écrire aussi cette série et de la dessiner. Mais là c'est du gag en une planche et c'est plutôt une petite récréation pour moi par rapport aux albums qui sont plus conséquents.
C'est vraiment vers le public jeunesse que vous êtes tourné
Oui, mais oui, avec au démarrage un a priori sur la jeunesse, à toujours vouloir faire du rigolo. Et là c'est vrai que depuis, alors 109 est toujours dans la gamme comédie rigolo,
oui.
Mais c'est vrai que depuis Chambre Noire, la série avec les Pénouquets dont on a parlé en début d'émission, je ne m'enferme pas du tout dans la jeunesse. Et quand je fais de la jeunesse, j'essaye de m'ouvrir au maximum pour ne jamais prendre le lectorat jeunesse pour plus idiot qu'il n'est. Et toujours le prendre au sérieux. Et du coup ça fait des histoires qui sont aussi lisibles par les adultes pour le coup.
Oui, regardez, il l'a lu, le 109.
Oui, mais alors moi, c'est parce que monsieur, là, à côté de moi. J'ai su garder une âme d'enfant. Et ouais, la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça vous tente pas ou titille pas, soit en solo, trouver un scénariste ou une scénariste pour faire peur aux vieux ou aux plus vieux.
Pourquoi pas. C'est vrai que pour le moment, il se trouve que j'ai eu souvent des propositions qui tournent autour de la jeunesse. Mais après, vous savez, pour avoir rencontré sans doute pas mal d'auteurs de bande dessinée, la BD en tant que dessinateur est assez chronophage, donc moi j'ai la chance de travailler relativement vite et de faire 2 voire 3 albums par an, ce qui est déjà beaucoup. Ouais. Donc c'est vrai qu'avoir. Alors là, j'ai des séries qui ont l'air de fonctionner, donc ça continue. Et pour le moment, j'espère qu'un tome 6 viendra. Je suis déjà sur le tome 8 de La Brigade des Cauchemars, alors que le tome 7 sort tout chaud de l'imprimeur. Donc ça continue. Donc c'est vrai qu'après des projets futurs. Mais faire de l'adulte, pourquoi pas?
Faites-nous peur.
Alors, si on parlait des gens qui faisaient peur dans Flux Glacial, alors que Flux Glacial est un registre comique, un ton comique, il y a Foester quand même.
Et j'ai eu la chance de travailler avec lui.
C'est vrai.
En effet, là, maintenant que vous en parlez, j'avais fait quelques planches avec lui dans un magazine qui n'a pas duré très longtemps, qui s'appelait Kramix. Et j'ai eu la chance de dessiner sur ces textes, sur des scénarios très horrifiques.
Il ressemble à quoi, Monsieur Foester? J'ai jamais vu.
Peur.
Est-ce qu'il fait peur? Est-ce
il
qu'il
est très sympathique? C'est comme tous les gens qui écrivent des choses qui font peur, généralement, ils mettent tout ce qui fait peur dans leurs écrits. Et eux, c'est des gens éminemment somatiques.
L'imaginais tout long, bizarre, à moitié chauve, et puis 3-4 cheveux comme ça, des yeux bizarres, non?
Non, pas du tout. Il est tout à fait normal et vraiment, vraiment sympathique comme
personnage. Vous lui donnerez bonjour, en tout cas, de la part d'un couillard patenté. Il en a sorti une dernière, parce qu'il reparaît dans Fluide encore maintenant. Et une des dernières, plus ça va, plus il fait peur, cet homme-là.
Ah, bah c'est bien. Alors moi, je savais pas qu'il avait refait des planches.
Mais si, alors est-ce que c'est du vieux matériel qui... Mais en tout cas, moi, je suis abonné à Fluide depuis 30 ans, donc... j'avais jamais lu ces histoires-là.
Eh ben, je vais redécouvrir ça, alors, du coup.
Et c'est pas mieux qu'avant. Vous nous avez déjà parlé de vos projets, un petit peu.
Un petit peu, ouais. Eh ben, écoutez...
Il va plus nous rester qu'à vous dire au revoir, en tout cas, monsieur Dumont.
Merci d'être venu.
Ben, merci à vous de m'avoir invité.
Merci de nous faire rigoler.
On rappelle, ouais, 109 rue des Soupirs. Ça, c'est paru chez aux éditions Casterman. Donc, parallèlement, vous continuez la série avec...
Avec Franck Tillier, donc la série c'est de la ça. Brigade des Cauchemars, dans le tome 7. Le tome 7. Je suis déjà décalé. Sortira juste après qu'il y a des bulles, mais il est déjà sur le salon en avant-première.
Voilà. Yes. Eh bien, ça sera un grand plaisir qu'on va découvrir tout ça. Et écoutez, ben, on va vous dire qu'on va vous souhaiter, comment on pourrait dire souhaiter à quelqu'un...
Joyeux Halloween.
Joyeux Halloween.
Ah bah, Halloween, c'est une période parfaite pour se faire peur, donc oui.
Ah, vous devez décorer votre maison pour Halloween avec vos propres dessins.
Pas trop.
Pas trop.
pas trop.
On vous remercie, monsieur.
C'est moi
Dumont.
Qui vous remercie.
Et à très bientôt, j'espère. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
C'est cool de réécouter les Cramps, Gougou Muck.
Ouais, j'adore, moi.
Ça va permettre en plus de renvoyer sur la danse de mercredi, la fameuse scène de la série.
Ouais.
Bref, vous avez pu entendre l'interview de monsieur Yumgi Dumont, 109 rue des Soupirs, Casterman, qui a été fortement recommandé par Roger.
Ouais.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission autour de la bande dessinée.
Yep.
Bonne lecture.
Parfait, Valois.